Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Nous recevons Bruno Fieux d'IES, Initiative pour une économie solidaire. C'est une coopérative de financement solidaire. Elle aide les entrepreneurs à se lancer et à s'installer. Un de ses principaux acteurs s'appelle Bruno Fieux. Il est avec nous aujourd'hui dans Le Goût d'entreprendre. Bonjour Bruno Fieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Parlez-nous d'IES. C'est une coopérative de financement solidaire. IES signifie Initiative pour une économie solidaire. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est une coopérative, au sens coopératif d'ailleurs des coopératives des SCOP.
Hein, oui, des SCOP.
Donc, qui dépendent de l'Union régionale. De financement solidaire, alors... quand on est dans un monde un petit peu plus capitaliste, on parle de capital risque.
Mmh.
Par contre, ça correspond à un statut de société qui est très particulier, donc on préfère parler de, de financement solidaire. Le principe, c'est que on collecte de l'épargne de gens comme vous et moi, et avec cet argent, on finance des créations ou des développements d'entreprises. Avec plusieurs critères. Le premier, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, développement durable, respect de l'environnement, gouvernance qui prend compte des salariés, etc.
Uh-huh.
Et puis un côté lucrativité limitée, c'est-à-dire que les sociétés de cette économie-là ne peuvent pas être cotées en bourse, par exemple. Et puis, avec des critères de répartition des bénéfices qui sont un petit peu plus différents du capitalisme dit classique.
Alors, vous accompagnez, vous financez, Bruno, concrètement ?
Alors, concrètement, ça se passe comment ? Quand quelqu'un veut créer un projet, il vient nous voir.
Ouais.
Donc, après un premier entretien qui est un petit peu administratif, j'allais dire, on regarde un peu ce qu'on pourrait appeler l'éligibilité du projet à cette forme d'économie. Donc c'est plutôt les critères de développement durable, de respect de l'environnement au sens large. Et puis quand on considère qu'effectivement c'est une des sociétés qu'on pourrait financer, on rentre dans un processus d'un nom barbare qui s'appelle le processus d'instruction du dossier, où on va regarder, évidemment, creuser un peu tous ces aspects.
Comme le ferait une banque ?
Comme le ferait une banque, mm-hmm. Tout à fait. Où on va regarder un petit peu plus les aspects financiers, et puis creuser un peu tous ces aspects économiques et solidaires, la personnalité du futur directeur, enfin, etc. Donc, et puis, une fois que cette instruction-là est faite, il y a ce qu'on appelle un comité d'engagement financier, IES, où effectivement les deux personnes qui ont instruit le dossier viennent le présenter. Et puis, décision, oui, non. Et puis, si oui, il y a un chèque. Sinon, ça s'arrête là. Et par contre, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le chèque, c'est la première étape. Mais un des points très importants d'IES, c'est l'accompagnement de l'entreprise pendant les 5 ou 7 ans dans lesquels on est à son capital.
Mmh.
Donc ça veut dire deux bénévoles de la structure IES qui accompagnent cette entreprise pendant cette durée-là. Accompagner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement remonter le moral quand il est dans les chaussettes, comme on dit, parce que ça peut arriver. Ça peut être aussi, comme on a plus d'une centaine de bénévoles maintenant, amener un réseau de compétences,
ouais.
Que ce soit des ressources humaines, que ce soit de la comptabilité, que ce soit de la finance, que ce soit du marketing, enfin que sais-je.
Mm-hmm.
Et puis, c'est aussi parce qu'on a mis de l'argent dans la société, donc ces deux accompagnateurs représentent l'actionnaire de la société que nous sommes. Et donc, on doit vérifier que ça se passe bien, que c'est sur une bonne pente. Et je dirais que le plus important, c'est souvent que le créateur de projet est le nez dans le guidon et dans le quotidien. Et ces entretiens réguliers avec les accompagnateurs l'obligent à lever le nez du guidon et à dire c'est pas la semaine prochaine, mais dans un an, dans trois ans, qu'est-ce que je ferai ?
Donc, ça, sont des coachs, en fait.
Alors, c'est... sauf qu'on n'a pas le droit de faire de la gérance de fait,
ouais,
effectivement, c'est de l'accompagnement. Mais c'est vrai que c'est prendre ce temps-là de régulier pour effectivement, accompagner le responsable du projet. Et puis faire que la société se devienne pérenne, quoi, quelque
voilà,
part.
Voilà, se développe. Alors, qui sont ces, on peut reprendre ce terme, ces super coachs, qui sont ces gens qui travaillent au sein de la SCOP ?
Alors, au sein de la SCOP, on a d'abord 3 salariés, quand même, qu'il ne faut pas oublier. On ne respecte pas du tout la parité, puisque c'est 3 femmes. Mais bon. Et puis, donc, il y a une déléguée générale, une qui s'occupe plus des aspects administratifs, et une troisième qui est plus en charge de tous les contacts avec les entreprises pour récupérer les comptes, etc. Et puis maintenant, les bénévoles, je dirais qu'il y a de tout. Au début, c'est plutôt parti du domaine aéronautique et spatial. Donc
alors vous, beaucoup... oui, par exemple, Bruno, vous m'avez amusé lorsqu'on a échangé la première fois pour préparer cette émission. Vous m'avez dit que vous étiez PDG bénévole.
Voilà. Alors, parce qu'il faut un PDG, donc c'est une coopérative, donc c'est une société, il faut un président et un directeur général. Alors, dans notre structure, les deux rôles sont sur la même personne, mais ce n'est pas forcé. Et puis, ben, comme j'avais un emploi à plein temps chez un petit constructeur d'avions de Blagnac, ben, effectivement, j'étais bénévole. Donc après, tous ceux qui interviennent bénévolement dans ces structures sont soit des gens qui ont un peu de temps, donc qui ont pris leur retraite, soit ouais. même aussi des actifs, sachant qu'il y en a qui se focalisent plus sur l'instruction financière de dossiers, d'autres sur l'accompagnement, parce qu'il y a un gros côté ressources humaines et contact humain qui est très très intéressant. Il y en a qui font de la comptabilité, il y en a qui... etc. Quoi. Donc, dans cette... je crois qu'on doit avoir 130 ou 140 personnes maintenant qui sont sur la liste de ces accompagnateurs. Un point important qu'il faut souligner aussi, c'est le périmètre. C'est-à-dire qu'on couvre toute l'Occitanie. Comme l'accompagnement a une notion de proximité avec l'entreprise qui est importante, on est organisé dans ce qu'on appelle des groupes locaux, c'est-à-dire que par département, en gros, il y a un groupe de personnes qui prennent les premiers contacts, qui font l'instruction du dossier. Pardon, la décision d'engagement financier est faite uniquement à Toulouse, enfin à Ramonville, puisque le siège est à Ramonville. Et par contre, tout l'accompagnement se fait en local. Donc le contact vrai entre IES et l'entreprise est vraiment très très local et proche.
Comment, j'allais dire, vous vivez ce quotidien d'accompagnateur, d'écoutant, vous donnez des conseils, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte, Bruno, concrètement ?
Moi, je dirais que j'y suis venu il y a déjà une douzaine d'années, je pense. Et c'était surtout... pour ce côté ressources et contacts humains. Le fait qu'on ait à regarder avec le responsable d'entreprise ben, où sont les comptes, et puis c'est quoi la situation des salariés, et puis, enfin, etc. Dans des situations un peu critiques, on est même amené à regarder les comptes, même personnels, pour pas qu'ils mettent en danger sa vie privée, mais que si la boîte coule... Donc il y a vraiment des rapports humains qui sont très très forts. Au point même d'ailleurs que dans certains cas, il y en a qui ont été amenés à changer parce qu'ils étaient trop impliqués dans l'entreprise et ils ne pouvaient plus avoir le recul nécessaire à ce rôle d'accompagnateur. Donc c'est vraiment des contacts. C'est vraiment des contacts très 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 forts finalement. Donc on a des contacts avec ça, puis bon, on a des contacts alors en tant que président avec tous les élus locaux, enfin avec toutes les organisations diverses et variées avec lesquelles on peut avoir à discuter. Et puis même, je dirais, en interne IES, entre les bénévoles, bon, c'était... Alors, maintenant, c'est devenu un petit peu plus gros, mais ça l'est toujours. C'est quand même d'abord une bande d'amis. Et de temps en temps, on se fait des petites fêtes ensemble parce qu'on est content d'être ensemble.
Vous restez avec nous ?
Bien sûr.
Justement. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Bruno Fieux d'IES, Initiative pour une économie solidaire, une coopérative de financement solidaire. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à Bruno, Pierre-Yves.
Je suis allé sur votre site internet et vous déclinez à un endroit les valeurs essentielles qui fondent l'action d'IES. Alors j'aimerais bien les regarder une par une avec vous.
Oui.
La solidarité.
Oui. C'est économie sociale et solidaire. Donc effectivement, on tire... l'essence d'IES, la légende dit qu'un samedi soir à Ramonville, après quelques bières, il y a un groupe de personnes qui a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer de l'emploi. Et donc effectivement, cette notion de solidarité vient de là. C'est de dire on est tous ensemble pour créer de l'emploi. Et j'allais dire même, pour reprendre un autre exemple, c'est que dans nos actionnaires, on a été très très étonnés de voir arriver des comités d'entreprise. Et alors en particulier celui d'Astrium, qui a été un des premiers, où des gens ont dit, ben voilà, on a du boulot pour 10 ans, pour 15 ans, on est à l'aise, on est bien payé, donc ça se passe bien. Et donc à travers le comité d'entreprise, si on pouvait créer des emplois. Et donc ils ont pris des parts sociales d'IES il y a déjà une dizaine d'années, et ils en reprennent régulièrement à travers le comité d'entreprise. Donc pour moi, ça illustre très bien cette notion de solidarité.
Pierre-Yves.
Ensuite, il y a l'engagement citoyen. C'est ambitieux, ça.
Ah oui, dans ces périodes d'élection, effectivement.
Qu'est-ce que ça veut dire, hein?
Alors, c'est simplement que... Alors moi, je le traduis par une image personnelle. C'est que pour moi, un homme à trois pieds, et que si, comme une chaise, si on en enlève un, ça se casse la figure. Il y a la famille, il y a le travail, qui donne un peu la reconnaissance sociale. Il y a ce que j'appellerais l'engagement citoyen à côté, qui est le troisième pied, finalement. Et je ne conçois pas une vie personnelle sans ce troisième pied, qui est effectivement de sortir un peu de sa maison ou de son travail, même si ça occupe quand même, pour effectivement aider dans la société. Alors ça rejoint un petit peu la notion de solidarité dont on parlait avant, mais c'est aussi pouvoir aider les autres et faire en sorte que la société marche bien.
Ensuite, il y a l'utilité sociale. Vous en avez un petit peu parlé avec la création d'emplois, peut-être.
Alors voilà, c'est effectivement... alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait que dans les catégories de sociétés qu'on finance, on retrouve très souvent cette utilité sociale. Donc ça fait partie des critères de l'économie sociale et solidaire, hein, donc dont on pourra parler peut-être un peu plus, mais c'est effectivement... on a beaucoup de services à la personne, par exemple. On a aussi des... la régie des quartiers nord de Toulouse, qui a été financée aussi avec la mairie, etc. Donc ce style d'emploi, finalement, qui a vraiment une vraie utilité sociale, avec d'ailleurs assez souvent des entreprises soit d'insertion, soit qui sont liées à des activités handicapées, et où donc là, l'utilité sociale prend encore plus de sens.
L'entrepreneuriat, bien sûr.
Bien sûr. Bon, on ne peut pas... Je dirais qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, en général, ne dure pas très longtemps, donc on est bien obligé un peu d'en passer par là. Mais on prend l'image de ce qu'on appelle la lucrativité limitée, c'est-à-dire que, effectivement, c'est pas, on n'est pas là pour payer des actionnaires, mais on est là pour que les gens qui ont créé l'entreprise, et qui souvent en sont actionnaires, comme dans une coopérative, par exemple, je dirais c'est eux qui en bénéficient. Et puis, donc, effectivement, il faut oser se lancer. Et IES, on apprécie souvent d'être un petit peu le petit coup de pouce, finalement, qui fait que l'entreprise peut démarrer, et puis et ben après créer beaucoup de choses, mais par elle-même.
Vous cherchez à donner le goût d'entreprendre.
C'est ça, donner envie.
Exactement, exactement.
Il y a ensuite la coopération.
Alors, coopération, donc on est dans une coopérative, donc avec un statut un peu particulier d'ailleurs, puisque... C'est une coopérative d'intérêt collectif, où on peut avoir à la fois des fonds privés et publics, hein, puisque la région, le Grand Toulouse, etc., sont actionnaires d'IES. C'est aussi un choix de dire, quand vous prenez une part sociale à 100 euros dans une coopérative, vous la rachetez, vous la revendez 100 euros. Donc il ne peut pas y avoir de plus-value. Donc c'est cette forme de coopération qui est intéressante. Et avec, je reviendrai un petit peu aussi sur les rapports humains. Vous avez dans le domaine des coopératives ce qu'on appelle l'intercoopération. Quand une société manque de boulot, elle va aller chercher les petits copains en disant « est-ce que vous n'en auriez pas pour moi ?» Et à l'inverse, quand elle en a trop, elle va aussi chercher les petits copains. Donc ce n'est pas des concurrents.
C'est un travail en réseau.
C'est effectivement un travail en réseau, ouais. Dans le même métier bien sûr, mais c'est cette coopération-là qui est aussi intéressante à mettre en avant.
Et qui fonctionne, Bruno, ou...
Alors,
j'allais dire sans concurrence, sans arrière-pensée.
Alors effectivement, sans arrière-pensée, l'exemple que j'ai en tête, c'est le BTP, il y a 3 ou 4 ans, quand c'était une crise un peu forte, et où les sociétés espagnoles arrivaient en cassant les prix, ouais, parce qu'elles avaient besoin d'affaires. Et à ce moment-là, moi j'étais au conseil d'administration de l'Union régionale des SCOP à ce moment-là, et ça discutait beaucoup, mais sans aucune arrière-pensée, c'est-à-dire que ça permettait de mieux résister à la crise ensemble, mm-hmm. plutôt qu'à l'intérieur d'une seule coopérative qui aurait eu des problèmes à ce moment-là.
Pierre-Yves.
Toujours dans ce point de la coopération, j'ai vu que vous aviez au sein de votre organisation la région Occitanie, Toulouse Métropole, le Sicoval. Comment vous arrivez à faire fonctionner tout ça ?
Ah ben, je dirais que ce n'est pas un problème. D'abord, on a une règle dans l'IES, c'est que cet actionnariat de personnes morales ne peut pas dépasser 50%. C'est-à-dire que les bénévoles que nous sommes, on sera toujours majoritaire, et c'est toujours nous qui, effectivement, déciderons de ce qu'on doit faire. Après, c'est toutes ces grandes collectivités, c'est un petit peu des accords de coopération aussi, c'est-à-dire que la région Toulouse Métropole pense qu'il est plus utile de mettre 100 euros dans IES plutôt que de mettre 100 euros dans une autre initiative pour créer de l'emploi. Donc elle reconnaît notre efficacité. Et quand on regarde d'ailleurs avec la région, où ils nous versent d'ailleurs des subventions aussi en plus de l'actionnariat, c'est pas une subvention comme on pourrait habituel, j'allais dire, c'est un engagement de résultat. Et on dit, ben, on va financer ton entreprise, on va avoir plus d'actionnaires, on va, enfin, etc. Donc c'est plutôt un engagement, un contrat d'engagement, qu'une vraie subvention au sens...
La dernière valeur que vous déclinez, c'est l'exemplarité. Vous voulez montrer l'exemple ?
Bien sûr, bien sûr. Donc quand on regarde un petit peu d'ailleurs en France, en fait, les coopératives comparables, il y en a 5 ou 6, hein, qu'on avait réunis d'ailleurs en fin janvier à Montpellier, pour discuter un petit peu des problèmes qu'on peut avoir en commun. Donc on se dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui croît, et qui croît même de façon intéressante, j'allais dire. Donc il y a encore des sites internet qui se créent, il y a des choses comme ça, etc. Donc c'est un milieu qui est en mouvement et en très positif.
J'ai regardé un peu la liste des types d'entreprises que vous financiez. Alors rapidement, le bâtiment, le commerce biologique et équitable, hein, tout ça on voit bien ce que c'est, culture et loisirs, environnement, énergie renouvelable, production alimentaire, restauration, service à la personne, transport, autres services. J'ai pas vu l'industrie.
Alors si, il y a de l'industrie. Je dirais, je citerai au moins une des rares entreprises qui s'appelle Futen, qui est en Ariège, et qui fait à partir de coton bio africain, de tout ce qui est drap, literie, enfin, etc. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu l'histoire aussi d'IES. Au début, on était spécialiste des petits restos. Comme je dis souvent, c'était sympa, on pouvait aller manger, et puis ça permettait de faire vivre le restaurant. Bon, ce qu'il y a, c'est que des restaurants qui tiennent 5 ans, il n'y en a pas beaucoup, donc on a perdu un peu d'argent. On en a quand même encore, je crois, un ou deux. Par contre, l'industrie a l'inconvénient de... Enfin, l'inconvénient. La caractéristique, on va dire, c'est pas forcément un inconvénient, mais de nécessiter plus d'investissement. Et donc, pour créer un emploi, si on met 1000 euros, ben, on peut créer un emploi de service. Pour créer un emploi industriel, c'est plutôt 10 fois plus. Et donc, effectivement, c'est ça qui limite, de par la capacité financière limitée que IES a. Donc, on peut pas mettre des sommes très, très importantes dans des grosses industries. Ben à ce moment-là, ça limite effectivement les industries qu'on pourrait créer.
C'est le secteur des services qui est prédominant.
Voilà, tout à fait. Mais ça n'empêche pas, hein, puisque, bon, je vous dis, Futen, voilà, et puis il y en a eu 2 ou 3 des projets où, en fait, ils ont trouvé ailleurs les gros fonds dont ils avaient besoin, donc ils n'ont pas utilisé IES. Mais...
Bruno, question de fond, l'économie sociale et solidaire crée de l'emploi aujourd'hui ?
Oui. Et même plus que l'économie classique. Hein. Donc je crois qu'il y avait une statistique qui disait que sur les 10 dernières années, et on avait l'économie classique a plutôt tendance à en supprimer, alors que l'économie sociale et solidaire a plutôt tendance à en créer, et plus même que l'économie classique.
Est-ce que vous avez un souvenir personnel, quelque chose qui vous est propre ? Alors ça peut être dans le cadre d'IES, j'allais dire une belle réussite, une belle satisfaction, ou ça peut être simplement quelque chose de plus personnel, mais lié bien évidemment à IES, sinon je ne me permettrai pas de vous poser la question.
C'est difficile comme ça. Non, je pense que c'est, je reviendrai un petit peu toujours sur ces rapports humains, et où j'avais effectivement, une des premières sociétés que j'avais accompagnée était une agence de voyage qui s'est créée à Ramonville il y a 10 années, et qui avait une caractéristique, c'était le spécialiste de l'eau douce. Alors on s'est dit, agence de voyage, l'eau douce, c'est quoi ? Et en fait, c'était le canal du Midi, c'était le ski, c'était les cascades, c'était le rafting, c'était, enfin, etc. Donc, et puis tout ce qui était, ils avaient démonté des partenariats aussi avec toutes les stations thermales du Massif Central. Bon, ça c'était aussi une entreprise d'insertion. Et puis en fait, les 2 salariés qui y étaient ont eu un tel taux d'absentéisme que finalement ça n'a pas duré très longtemps. C'est dommage. Mais justement, enfin, le rapport qu'on avait avec ce chef d'entreprise, on a été amené à regarder ses comptes personnels, effectivement, pour voir un peu qui mettait pas en danger son ménage, j'allais dire. Donc là, il y a eu des rapports, enfin des journées. C'est très très fort finalement comme relation.
Ouais, ouais.
Bon, ça n'a pas duré, bon, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais Je pense que ça fait partie de cette dimension humaine qu'on ne peut pas, absolument pas gommer. Quoi.
Et ça a été fort pour vous, ça a été marquant.
Moi, j'avoue que oui. Alors après, il y a eu une autre entreprise, mais que je ne citerai pas là, mais qui s'est... une autre coopérative qui s'est arrêtée. Et, bon, j'allais dire, on n'a jamais trop compris pourquoi, parce que le gérant était mis en minorité, enfin, etc. Donc ça s'est arrêté, alors que c'était une entreprise magnifique aussi. Enfin, il y a des choses comme ça où on a encore à apprendre et à prendre de l'expérience pour dire... comment peut-on détecter ce genre de choses pour effectivement...
Pour ne pas en arriver là.
Pour ne pas en arriver là.
Ouais, tout à fait. Pierre-Yves, une dernière remarque.
Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi un peu dans la transmission, puisque vous avez des liens avec le monde étudiant, notamment la Toulouse Business School, etc.
Alors ça, c'est... oui, on a des liens avec TBS. Il y a deux liens, d'ailleurs. D'une part, c'est effectivement que... la représentante économie sociale et solidaire à Toulouse Métropole est aussi professeure à TBS, donc ça, c'est des rapports qu'on a depuis longtemps. Et puis c'est le fait aussi qu'on a utilisé pas mal les services de leur junior entreprise. Donc il y a 10 ans, on leur avait demandé d'ailleurs c'est quoi la stratégie d'IES par exemple. Il y a le fait que aussi ils utilisent IES comme entreprise pour faire des stages. Donc on prend à l'automne 3 ou 4 groupes de 4 étudiants, on leur fait instruire un dossier. C'est un partenariat intéressant parce que d'abord, effectivement, ça permet d'instruire des dossiers quand on en a beaucoup. Et puis c'est aussi que ça amène un œil neuf. C'est-à-dire que nous, les vieux moustachus qui faisons de l'instruction, j'allais dire, ça amène un œil neuf. Bon, c'est des jeunes qui, effectivement, ont appris le marketing, etc., la veille ou le mois d'avant. Donc, ça permet d'amener du sang neuf dans ce genre de choses. Et puis après, ils organisent aussi... on a fêté la 100e entreprise et le 1000e sociétaire la semaine dernière, le 4 mai. Et on était chez TBS, justement, à Antioche, à Toulouse.
Merci beaucoup, Bruno, pour votre intervention. Merci d'être venu nous rendre visite dans Le Goût d'entreprendre. Alors, si on a une idée d'entreprise, qu'elle colle parfaitement à ses valeurs sociales et solidaires, on n'hésite pas, on vient vous voir.
Bien sûr. Le siège est à Ramonville, 7 rue Hermès.
Et le site internet ?
Et le site internet www.ies.coop, COOP comme coopérative.
Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence. Si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.